Bonjour à toutes et tous. Dernier samedi de l'été pour déguster encore un peu de soleil avec une émission de septembre 2019 consacrée à la Sicile, Cucina Siciliana, au menu dont on va déguster.
Je peux goûter comme ça ?
Oui, bien sûr.
C'est bon.
Ciao, benvenuti. Noi siamo a Palermo, trattoria ai Cascinari. Questa trattoria prima c'era un quartiere, uno dei più poveri di Palermo. Facciamo cucina tipica palermitana. E oggi, per esempio, vi propongo spaghetti uova di pesce spada e cozze, pennette spada, melanzane e mentuccia, spaghetti alla marinara, cannelloni alla norma, mezze maniche alla norma, ravioli fantasia. E poi abbiamo una pasta, spaghetti con zucchina fritta e caciocavallo. Buon appetito.
Buongiorno a tutti. Je vous propose de croquer la plus grande île de Méditerranée, une région qui détient l'un des patrimoines culinaires les plus riches d'Italie. Vous l'avez deviné, c'est la Sicile, Sicilia. Alessandra Pierini, buongiorno.
Buongiorno a tutti.
Vous allez bien, Alessandra?
Benissimo.
Vous êtes en direct avec nous pour voyager en Italie. Vous êtes l'experte italienne de la bande dont on va déguster et de Catane à Palerme, de Noto à Bronte. On va parler poisson, pasta, granita, cannoli et pistaches. Oui, car nous avons notamment, parmi toutes nos expériences, assisté à la récolte des pistaches de Bronte sur les pentes de l'Etna. On va vous faire découvrir toutes ces expériences au fil de nos reportages. Dans la bande dont on va déguster, je demande une Sicilienne de cœur, Estherelle Pagliani, bonjour.
Bonjour.
Vous connaissez bien la Sicile.
Sicilienne d'adoption, puisque c'était là que je passais toutes mes vacances quand j'étais enfant, à Pacchino, au sud de Noto.
Et vous avez donc appris par cœur certaines recettes.
Et j'ai même ramené la recette du petit déjeuner que je savourais là-bas.
Voilà, petit déjeuner à la Sicilienne avec Estherelle Pagliani dans un instant, et un petit nouveau qui fait son baptême du feu au sein de l'émission. Il est avocat pénaliste. Il est avocat pénaliste depuis 23 ans, amateur de bonne chère et de vin nature. Il défend les vignerons en but et en lutte contre certaines absurdités de notre système des AOC. C'est notre avocat gourmet Éric Morin, bonjour.
Bonjour François-Régis.
Bienvenue dans la bande dont on va déguster.
Je suis très heureux d'être là, il paraît que c'est la meilleure table de France.
Oui, c'est ce qu'on m'a dit aussi, on s'est laissé dire ça évidemment. Maître Guacamole, c'est votre surnom pour les intimes?
Oui, c'est que dans l'intimité, merci.
Vous viendrez régulièrement au micro dont on va déguster pour décortiquer, voire dénoncer avec humour et pédagogie les coquetteries et les aberrations de notre réglementation en matière d'alimentation. On commence aujourd'hui avec une question brûlante. Tout bio or not bio? Bio or not tout bio? Voilà, c'est ce qu'on va voir, le bio au niveau européen. Derrière la vitre de la régie, en direct, Laurent Thomas, Nadia Chougui, avec aujourd'hui à la technique Florent Bujon. Vous avez un souvenir gourmand en Sicile à nous raconter ou une recette? Intervenez dans cette émission en cliquant sur réagir depuis l'appli mobile de France Inter ou en nous envoyant un mail à onvadéguster@radiofrance.com.
France Inter, on va déguster avec François-Régis Gaudry.
Qua c'è la triola, la triglia detta in siciliano spareganace.
Alors ce sont des petits rougets spéciaux pour la friture.
Quello è gambero, gambero bianco locale e sempre gambero.
Un petit bouquet de crevettes du coin.
Seppia.
Sèche.
Quello merluzzo, merluzzetto si chiama anche.
Petit merlu.
Quello è canocchio e cicale. In siciliano, in italiano canocchio.
Alors les canocchi en italien, sinon les cicale en sicilien, qui sont les cigales.
Questo sgombro, pesce azzurro del nostro mare.
Le maquereau, roi des mers ici.
Quella c'è, l'ambuca.
Les corifènes.
In siciliano capone, al capone. Quelli sardine, sardon. Alice mascoline detto in siciliano, quelle sarde sfinate. Quelli sauri e quelli sempre sgombri.
Alors, ce sont toujours les maquereaux, puis les sardines, et il y a aussi des sardines préparées spécialement. On leur enlève leur arête centrale et présentées comme ça, le flanc ouvert.
Sono pescati nel nostro locale, nel nostro mare. Sarebbe fra Catania, Taormina, che sono della nostra costa, sono 4-5 chilometri, come su strada.
Le poisson donc est pêché ici dans les mers du coin. Maximum 3-5 km autour de Catania, jusqu'à Taormina.
Notre périple sicilien débute dans le brouhaha hallucinant de la grande ville du sud de l'Italie.
Absolument, c'était Catane.
Catane. Et plus particulièrement via Mulino Santa Lucia, c'est dans ce quartier du Duomo que se tient presque tous les jours la Piscaria, c'est le mercato del pesce, hein, c'est vraiment le marché aux poissons avec cette profusion extraordinaire de toutes les espèces de Méditerranée. On l'entendait dans ce reportage, la traduction était assurée par Stéphane Solier. On avait sous les yeux vraiment la preuve vivante que la cuisine sicilienne moderne est particulièrement tournée vers la mer.
Tout à fait. On a entendu énumérer toutes ces variétés de poissons. Il y avait une ambiance incroyable donc sur ce marché. Et c'est vrai, ça n'a pas toujours été le cas, mais depuis une bonne cinquantaine d'années, on pêche beaucoup dans la mer sicilienne. Et on prépare énormément de recettes à base de poissons à partir de l'entrée, les plats, des spaghetti ai ricci di mare, ce sont les spaghetti aux oursins, les sarde a becca fico, ça c'est une ancienne recette aussi sicilienne de la cucina povera, la cuisine pauvre.
En quoi ça consiste? Sarde a becca fico.
Becca fico, c'était un oiseau, c'était une petite fauvette des jardins, donc un petit gibier qui était très prisé et très cher, qui était gardé surtout pour la cuisine de la bourgeoisie. Et donc la population, pour pouvoir refaire le même plat, il a remplacé ce petit oiseau avec des sardines pour pouvoir l'utiliser et sublimé bien sûr avec des raisins secs, des pignons et surtout de la chapelure de pain.
Et la sardine était évidemment un produit bon marché.
Bon marché, facile à trouver, on en pêchait beaucoup, on en pêche toujours beaucoup.
Sarde a becca fico.
Becca fico.
C'est ça, l'accent tonique est sur becca.
Puisqu'il y a, c'est très bien, vous avez très bien prononcé.
Oui, absolument. Mais il y a aussi une autre recette à base de sardines qui est assez connue des très nombreux Français qui vont en Sicile. Je rappelle quand même que les Français sont la première délégation touristique en Sicile. Il y a une véritable passion française pour la Sicile qui peut s'expliquer aussi d'ailleurs pour des raisons historiques, hein, puisque les Français ont été aussi implantés, les Bourbons, les Normands.
Bien sûr, les Normands, ils sont arrivés en Sicile dans la deuxième moitié du 19e siècle. Ils ont laissé énormément de traces et surtout dans la cuisine.
Et il y a une recette emblématique à base de sardines, ce sont les spaghetti con le sarde. Je vous propose une petite adaptation puisque vous avez écrit, Alessandra Pierini, un très joli livre que vous venez de publier avec votre amie, mais qui est aussi notre amie parce qu'elle intervient très souvent au micro dont on va déguster. Sonia Esgulian, elle est venue de nombreuses fois à ce micro. Pasta Allegra aux éditions de L'Épure. Mmh. C'est vraiment un petit carnet charmant, un petit recueil de recettes de pâtes. Et dans ce recueil, on trouve les fusilloni aux anchois. Donc c'est un peu le principe des spaghettis avec la sardine, sauf que vous remplacez la sardine par des anchois. Expliquez-nous le principe de cette recette.
Je la remplace donc par les anchois, qui peuvent être des anchois frais en saison, des anchois en conserve. Et je garde aussi ce que j'adore dans ce plat, qui est la mie de pain toastée grillée au four.
Caractéristique de la recette sicilienne.
C'est pratiquement de la mie de pain qui remplace le fromage sur les pâtes, en guise de parmesan.
Là aussi, on a un geste de cucina povera. Hein.
Absolument, oui, c'était vraiment ce qu'on avait sous la main, mais c'est excellent si on la met au four avec un petit peu de poivre, comme je suggère dans la recette. Moi, je l'adapte je remplace le fenouil de la recette traditionnelle par du céleri coupé légèrement en brunoise et de la citronnelle. Ce sont des produits qu'on peut comme ça trouver en toute saison. Et je rajoute aussi un tout petit peu de tomate dans cette sauce parce que ça me rappelle en fait l'interprétation que les Français qui avaient vécu en Afrique du Nord m'avaient transmis quand j'étais à Marseille. Mm-hmm. Et eux, ils mettaient dans cette recette, dans cette pâte qu'ils appellent la milanise, aussi de la tomate. Et
c'est
donc, je l'ai gardé, j'aime beaucoup cette interprétation.
Avec vraiment ce petit geste très sicilien, mais on le retrouve également dans le sud de l'Italie, d'assaisonner littéralement, de saupoudrer ses pâtes de cette chapelure toastée qui va apporter de la croustillance. Ça fait un peu céréales sur céréales, hein, du pain sur des pâtes de blé dur. Bon, en attendant, ça marche très bien en termes de texture.
Une petite poignée, ça fait vraiment pas de mal, au contraire, ça sublime la recette.
La recette de fusilloni au pain grillé et anchois à retrouver aussi sur franceinter.fr à la page On va déguster, comme toutes les recettes évoquées dans cette émission. Les produits de la mer, on le voit, sont bien présents dans la cuisine sicilienne. Et en même temps, on le disait, c'était assez récent, car la cuisine sicilienne est avant tout tournée vers la terre, pour des raisons précises.
vers la terre, parce que à part les villes principales qui sont Trappes, Animessine, Aquitaine, qui étaient vraiment sur la mer, toutes les autres populations habitaient vraiment dans les campagnes. Donc c'était les agriculteurs ou dans les montagnes, exactement, parce que il faut pas oublier, il y a quand même une énorme montagne qui est l'Etna et tous les monts Nebrodi également qui sont sur le côté nord-ouest.
Et Etna, 3330 mètres, c'est quand même une montagne prodigieuse,
ah oui,
énorme,
très énormément haute. De neige, il y a des pistes de ski pendant l'hiver. Et donc, on peut dire surtout que c'était cette cucina des campagnes, une cuisine rustique, où on utilisait surtout des légumes, bien sûr, mais énormément de légumes secs, très peu de viande, qui était remplacée donc par les légumineuses, beaucoup, énormément d'herbes aromatiques. On trouve aussi du basilic, au finocchietto, le fenouil sauvage qu'on a vu dans les pâtes. Il y a aussi beaucoup de menthe qu'on trouve pas forcément ailleurs dans les cuisines italiennes, qu'on retrouve un peu dans les cuisines du Maghreb. Donc, il y a ces influences incroyables, parce qu'il ne faut pas oublier, bien sûr, que la Sicile, elle a été envahie pendant des siècles par tout le monde. D'abord, c'était les Romains, ensuite les Grecs, les Espagnols, les Allemands, et pour terminer, par les Normands. Chacun a laissé, bien sûr, les Africains, les Arabes, chacun a laissé un petit peu son grain de sel, et c'est venu à alimenter cette cuisine incroyable, et c'est pour ça qu'on retrouve énormément de recettes différentes dans toute l'île.
Donc, richesse extraordinaire qui s'explique à la fois par les nombreuses influences historiques, vous les avez nommées, espagnoles, françaises, grecques, arabes, etc. Et aussi par le caractère très vaste, hein, l'énormité de ce territoire, la plus grande île de Méditerranée, on le disait, et plusieurs écoles régionales. Il y a la guerre un peu culinaire entre Catane au sud et Palerme au nord, on va le voir tout au long de cette émission. Dans un instant, on va parler d'un produit emblématique et extraordinaire. Allez, un petit indice, il est de couleur verte, mais juste avant, Baxter Dury, Carla S, Got a Boyfriend sur France Inter.
Carla's got a boyfriend. He's got horrible trousers and a small car. Carla's got a boyfriend. I spotted him on Instagram. Followed him about a bit. Carla's got a boyfriend. A bit of designer hair, sloppy facial looks. Carla's got a boyfriend. I might take care of him, to be honest.
Promises. I've made so many, been so wrong lately.
Your eyes have left me.
dégusté.
Andiamo ad assaggiare la cucina siciliana su France Inter.
Questa è la lambuga, capone, capone, al capone, brava, al capone.
On déguste la Sicile sur le plateau dont on va déguster avec Alessandra Pierini qui est là en direct, arrivée comme d'habitude, les bras chargés. Il y a du vin, de la pâtisserie, de la charcuterie, du fromage. On va égrener tous ces produits au fil de cette émission. Je voudrais à présent vous raconter, chers amis auditeurs, une histoire d'amour. Une histoire d'amour entre un volcan et un fruit. Sur le versant ouest de l'Etna pousse un arbre que les Arabes auraient introduit en Sicile entre les 8e et 9e siècles. C'est le pistachier. Et ça donne certainement la meilleure pistache du monde parce qu'elle est à la fois douce, puissante, subtile. Elle a évidemment une renommée mondiale et une renommée notamment très importante auprès des pâtissiers français. C'est Il Famoso.
Pistacchio di Bronte DOP, D-O-P, donc c'est AOP en français.
Nous avons rencontré un couple de producteurs, Laura Lupo et Alberto Caudillo. Ils produisent une pistache en agriculture biologique dans le cadre de leur entreprise BioBronte. On est arrivé alors que la récolte de pistaches venait de commencer. Balade au milieu des pistachiers, ces arbres magnifiques qui jaillissent de la roche dure et noire de l'Etna.
Sono dei rami molto sottili. Il tronco è sempre molto grosso perché sono alberi centenari.
Alors le pistachier c'est un arbre très particulier. Il y a un tronc, ça ressemble un tout petit peu à un gros figuier. Ce sont des arbres centenaires et un arbre centenaire donne encore beaucoup beaucoup de fruits jusqu'à 30-40 kilos.
Si formano a grappoli.
Les branches, elles font un petit peu leur vie.
Ma di fatto sono proprio.
Ça fait un petit peu des serpents secs chargés de feuilles et chargés de grappes de pistache, on dirait presque. Presque des grappes de raisin, presque des nuances violettes. Alors voilà, on vient de trouver une pistache prête à être ramassée. Elle se détache très très facilement. Elle est recouverte d'une peau végétale assez souple qui s'enlève très facilement, qui est le brou, et sous laquelle on retrouve la coquille.
Oh là là, là c'est la coquille qui s'ouvre et on a un fruit fuchsia.
Sì, questa è la particolarità del pistacchio, vedete? Il colore è violaceo fuori e verde dentro. Basta spaccarlo dentro. Et voilà.
Ah mais c'est un vert, voilà. Un vert presque fluorescent.
C'est ça, c'est une belle surprise quand on ouvre cette coque qui est très claire, d'un beige très laiteux. À l'intérieur, le fruit, il est vert, on dirait presque comme un petit pois qu'on vient juste de ramasser.
Exactement.
Et avec une petite peau qui a au-dessus là, des nuances rose, fuchsia, violette, exceptionnelles. Le contraste, il est excellent.
Est-ce que c'est un fruit qui se mange frais?
On a de la chance parce que c'est un fruit qu'au moment de la récolte, on peut le manger aussi frais et tendre comme ça.
Posso?
Certo.
Voilà.
Et croquante.
Croquante et on a le goût de la pistache. Il y a un effet plus laiteux, plus juteux, comme une noisette fraîche ou une noix fraîche par rapport aux fruits secs.
On n'a pas l'habitude de manger une pistache à peine récoltée comme ça.
Je peux poser une question à Alberto? Est-ce qu'il peut nous dire ce que la pistache de Bronte a de plus par rapport à la pistache sicilienne, car il y a de la pistache qui pousse en Sicile mais qui n'est pas AOP Bronte, et ce qu'elle a de plus par rapport aux autres pistaches du monde?
Pistache di Bronte a caratteristiche uniche.
Bien sûr, il n'y a aucune pistache qui peut être à la hauteur d'une pistache de Bronte.
Perché appunto questa terra lavica dà un sapore molto più sapido.
Parce que c'est la seule qui pousse sur un terrain volcanique, qui donne une particulière sapidité et en même temps une douceur aux fruits qu'on ne peut pas retrouver ailleurs.
Ce n'est pas forcément le fruit le plus gros, mais c'est le plus savoureux.
Non, sicuramente non è più grossa, anzi.
La pistache de Bronte, donc, c'est plutôt une des pistaches les plus petites. Elle est assez allongée, assez ovale, mais c'est sûrement la plus savoureuse.
La mythique pistache de Bronte et Alessandra Pierini, nous étions d'autant plus chanceux que cette fameuse récolte, ça ne se passe pas tous les ans.
Absolument, c'est une fois tous les deux ans. D'ailleurs, cette année, c'est une année impaire. Et c'est à ce moment-là, fin août, début septembre, qu'on la récolte pendant 2-3 semaines. Et on le fait comme ça. C'est vraiment le cahier des charges qui impose cette récolte de façon qu'elle soit beaucoup plus abondante et les pistaches soient de meilleure qualité. Et dans les années paires, donc, il n'y a pas grand chose à faire sur les arbres, à part les tailler au mois de janvier. Et ensuite, au mois de mars, on enlève les bourgeons fleuraux pour empêcher, donc, qu'il y ait les fruits ensuite.
Estherelle et Eric, une fois dans votre vie, est-ce que vous aviez déjà goûté, croqué des pistaches fraîches, comme on pourrait manger des noix fraîches, des amandes fraîches, des noisettes fraîches?
Ben bah, oui.
Ah, bah, moi, c'était la première fois, et j'avoue que depuis mon retour de Zizière.
Jamais, hein.
Non, mais je suis drogué.
C'est suave, c'est d'une douceur incroyable.
C'est même un peu laiteux. Il y a le goût virginal, embryonnaire de la pistache. C'est vraiment tout à fait délicat. Alors, Laura et Alberto,
ouais,
cultivent cette pistache. Elle est biologique, hein, on l'a dit. Ils la vendent brute, séchée, décortiquée, parfois pelée. C'est une transformation tout à fait naturel. Et tout ça, ça se passe dans leur atelier à Bronté. Ils en font de la pâte, de l'huile, notamment de la pâte à tartiner. Et on a découvert avec Laura un truc absolument extraordinaire et très simple à faire avec des pistaches de Bronte. Mais allez, on peut se servir aussi,
bien sûr,
évidemment, des pistaches espagnoles, turques ou iraniennes.
Grec.
Une ou grecque, absolument. Une préparation notamment très très bonne sur les pâtes que nous prépare donc Laura dans le secret de son atelier.
Adesso facciamo un pesto di pistacchio dal vivo.
Là, on va faire un pesto de pistache en direct au mortier.
Ed è un mortaio del 1870, tra l'altro, ereditato da una zia.
Laura, elle a un mortier qu'elle a hérité de sa tante. Il date de 1870. Il est en cuivre, il est très lourd. Il a la forme d'une cloche renversée. D'ailleurs, il a le fond légèrement arrondi et ça bascule. Je pense que c'est fait exprès pour que ça soit plus facile à l'utilisation.
Mettiamo un mezzo chilo di pistacchio dentro il mortaio.
Alors, on prend de la pistache entière avec la peau. On la met dans le mortier avec une bonne demi-cuillère de sel.
Aggiungiamo anche un pizzico di pepe per dare un po' di...
On rajoute également une bonne pincée de poivre.
Et iniziamo a macinare con l'aggiunta di olio di oliva nel frattempo che lo pestiamo.
Et on commence à broyer la pistache avec beaucoup d'énergie, beaucoup de force, avec le pilon dans le mortier. On rajoute petit à petit l'huile d'olive.
Bon, il y a aussi de l'huile de coude, hein, visiblement.
Ah bah oui, déjà le pilon, il est très costaud et il faut vraiment taper bien fort. Et on voit que la pistache commence petit à petit à se concasser.
Voilà.
J'ai envie de goûter.
Assaggiamo. Volete assaggiare, sì.
Si.
C'est délicieux. Le fait qu'il soit fait comme ça au mortier à la main, il y a ces morceaux de pistache concassés qui restent encore un peu résistantes sous la dent, qui sont très intéressantes.
Pesto di pistacchio al mortaio, vraiment au mortier, dans un très très vieux mortier, ça c'est ça les histoires italiennes. On rencontre des gens, ils vous expliquent que le mortier a plus de 200 ans, qu'il est hérité de la famille, etc. Ce pesto, alors ils le font, ils le vendent même, hein, évidemment, il est biologique, on l'a dit, et on peut s'en servir pour faire une pâte vraiment délicieuse.
Absolument, énormément de recettes. On a découvert donc cette recette dans le restaurant Protosteria de Bronte, où le chef Alfredo Proto nous a préparé une recette à partir d'ailleurs vraiment du pesto de pistache que Laura nous avait fait au mortier, en le rajoutant dans une poêle dans laquelle il avait fait revenir dans un tout petit peu d'huile d'olive, un tout petit peu d'oignon qu'il avait sué, quelques tranches de pancetta, on peut aussi le remplacer avec un tout petit peu de poisson, le pesto de pistache, on laisse revenir deux petites minutes, on rajoute comme d'habitude deux bonnes cuillères d'eau de cuisson des pâtes pour émulsionner tout ça, et ensuite on met des pâtes, de préférence des bousillate siciliennes, c'est une pâte typique un petit peu farineuse qui ressemble à
torsadée.
Légèrement torsadé, c'est ça,
un peu.
Spirale, un peu serré.
Oui.
Ça va très bien avec le pesto de pistache. Et ensuite, toujours en guise de fromage, on rajoute de la pistache concassée. C'est excellent.
Alors, les Siciliens mettent du cacio cavallo.
Caciocavallo qui est dessus, râpé. C'est un fromage de vache que nous avons ici sur le plateau. Le caciocavallo ragusano, produit dans la province de Ragusa. Et c'est un peu une pâte filée, comme un peu on fait dans la scamorza, dans la mozzarella, très très affinée et bien sec, un petit peu relevé. On peut mettre aussi de la ricotta salée. C'est l'autre fromage emblématique de la Sicile. Ricotta salata secca, à partir de lait de brebis. Cette fois-ci, ça peut être aussi éventuellement fumé.
Et si on met du parmesan, si nos auditeurs mettent du parmesan, on n'appelle pas la police ?
Oh non, on peut le faire. Mais bon, les Siciliens, c'est vrai qu'ils tiennent beaucoup à leur fromage.
Les pâtes au pesto de pistache, vraiment, c'est pas compliqué à faire à la maison.
Non, c'est excellent, c'est joli à voir.
Si on a un joli mortier.
Couleur, un joli mortier,
et
ça,
sinon,
ça prend quelques minutes.
2-3 coups de blender, même si je sais que vous aimez pas trop.
Pas trop fort. Moi, j'aime pas trop.
Merci. La recette est en ligne, évidemment, sur franceinter.fr à la page On va déguster. On parlait de pistache bio. Bio or not to bio, c'est justement la question que pose notre avocat gourmet Éric Morin.
Sur France Inter, on va déguster.
Éric Morin, notre avocat gourmet. Éric, vous vous êtes promené sur votre marché préféré, celui d'Aligre, à Paris, on saura tout. Et vous avez été intrigué par certains maraîchers qui s'affichaient sur leurs étiquettes ou leurs petites ardoises noires 100% bio et à des prix légèrement plus attractifs qu'ailleurs.
Effectivement, François-Régis, j'ai regardé sur le côté des cagettes et j'ai pu lire qu'il s'agissait de fruits et légumes en provenance d'Italie, parfois même de Sicile, et dûment labellisés bio. Alors bio or not to bio, ça tisse plus vraiment la question depuis quelques années, il me semble. On veut manger plus sain, on veut boire plus sain, et les chiffres d'ailleurs vont dans ce sens. Au niveau européen, les ventes de produits bio augmentent de 12% par an, et rien qu'en France, c'est 36%.
C'est quand même une demande énorme, hein. Ça montre vraiment un élan collectif en faveur du bio.
Alors petit retour en arrière, ce n'est qu'en 2007 que naît le premier règlement européen bio. On rappelle que le label bio gouvernemental français AB date de 85, soit plus de 20 ans auparavant. Apparaît alors l'eurofeuille, vous savez, on le connaît bien, c'est ce logo avec 12 étoiles blanches sur fond vert, dont une étoile filante, et qui forme une feuille stylisée. Alors ce label a été rapidement contesté, trop contraignant pour les uns, pas assez pour les autres, bref, tous jamais contents. Un nouveau règlement a donc été adopté après 4 années d'âpres débats, c'est celui qui s'impose aujourd'hui, notre réglementation du 30 mai 2018. Et figurez-vous que ce nouveau règlement est finalement globalement moins contraignant et adoucit certaines dispositions, comme par exemple la fréquence des contrôles. Alors qu'un concombre ait été produit en Espagne, en France ou en Italie, s'il remplit le cahier des charges de l'eurofeuille, il sera toujours qualifié de bio. Mais là où ça se complique pour le consommateur, c'est que de plus en plus de labels privés alternatifs sont apparus. On en compte par exemple 7 en Allemagne, 4 en France, seulement 1 en Italie. Je vous cite rapidement les Français.
Et oui, puisqu'on les voit assez régulièrement pour ceux qui sont évidemment très intéressés à l'idée de consommer bio.
Alors Biocohérence, Nature et Progrès, Déméter qui est aussi international, et Écocert, Équitable. Or, ces labels bio prennent en compte différents critères, parfois de qualité bien supérieure, mais parfois pas.
Alors, on a bien compris, l'eurofeuille, c'est vraiment le bio au niveau européen, la réglementation au même niveau pour tous les pays, mais s'il y a en plus, évidemment, ces labels locaux en France, en Allemagne, en Italie, on s'y retrouve comment ?
Alors, en fait, nos 4 labels français ont toujours eu pour caractéristique commune d'être bien plus exigeants que le label bio européen, d'ailleurs que ce soit celui de 2007 ou celui de 2018. Inversement, en Italie, l'unique label ICEA, qui est issu de l'Association italienne pour l'agriculture biologique, reprend lui les seuls critères européens, sans les compléter, il est finalement qu'une réplique nationale plus ou moins arrangée de l'eurofeuille. Alors, c'est déjà pas mal, me direz-vous, oui, mais quand on rentre un petit peu dans le détail, il y a des choses qui font tiquer.
L'ICEA, vous connaissez, hein, Alessandra, ce label proprement italien.
Tout à fait.
Vous avez des exemples à nous donner, Éric ?
Alors oui, par exemple, pas de problème pour les pesticides chimiques qui sont interdits, idem pour les tests sur animaux, mais lorsque le label Eurofeuille impose dans des produits transformés 100% d'ingrédients certifiés biologiques, le label italien, lui, je cite, « encourage, mais n'impose aucun minimum ». Quand Eurofeuille, comme le label italien, autorise certaines mixités bio-non bio au niveau d'une ferme, qui pourra à ce moment-là élever des bovins en bio mais faire du fourrage en non bio, les labels français Nature et Progrès ou Biocohérence interdisent cette mixité et imposent une ferme 100% bio. Tout doit l'être de A à Z en quelque sorte. Certaines exigences sociales relatives au respect des droits des salariés figurent aussi dans les labels français mais pas ailleurs. Pire, l'eurofeuille n'en dit pas un mot. Alors, vous me direz que ça n'affecte pas la qualité de nos salades, certes, mais quand on cherche à acheter mieux, on est dans une démarche éthique globale qui n'interdit pas, loin s'en faut, il me semble, de s'intéresser aux questions sociales. Je pense notamment aux 33 000 hectares bio d'Almeria en Andalousie, dont la production se fait au prix d'une surexploitation de ressources naturelles et humaines. C'est l'équivalent de 47 000 terrains de football.
Et là, en l'occurrence, ce fameux logo européen, avec son cahier des charges, l'Eurofeuille, s'en fiche complètement, on peut le dire.
Effectivement, il n'en dit pas un mot. Alors, s'il y a une morale à cette histoire, ce serait sans doute de tendre toujours plus à acheter cohérent. Mmh. Voilà, quelle cohérence à acheter des fruits et légumes bio étrangers, d'ailleurs dont on vient de voir qu'ils sont parfois moins bio que les nôtres, quand nécessairement ces produits ont fait des milliers de kilomètres pour arriver jusqu'à nous. Sans compter que si vous les achetez en plus en grande surface, et selon la dernière étude du FC Que Choisir, vous paierez vos fruits et légumes presque 20% plus cher que dans les magasins spécialisés bio, avec une marge quasiment doublée par rapport au conventionnel. Alors ni bio con, ni bio BA, soyons bio-cohérents plutôt. La vraie démarche bio-cohérente est d'abord saisonnière et locale. Alors, sauf pour les tomates siciliennes qu'on peut manger en toute saison, fraîches ou en conserve. That is not the question. Évidemment, chère Alexandra Pierini.
Alexandra, effectivement, c'est vrai que les tomates, là, pour le coup, on peut les manger un peu hors saison, car il est toléré, ça fait partie des traditions, notamment italiennes, oui, de les conserver.
On les conserve,
dans des bocaux.
Bien sûr. Mais parfois, il vaut mieux manger une très très bonne conserve de tomates de bonne qualité qui a été ramassée mûre, plutôt que de manger des tomates, malheureusement, qui ont voyagé beaucoup, qui ne sont vraiment pas de très bonne qualité.
On parlait justement volcan il y a un instant. Je vous propose une petite pause musicale, mais on va en profiter pour déboucher une bouteille, car évidemment, la Sicile est une grande terre de vin, Alessandra.
Ah oui, absolument. C'est vraiment la plus grande superficie de vignoble d'Italie. Elle compte parmi les plus hauts et les plus anciens du monde. Et il y a encore d'ailleurs beaucoup de pieds de vignes pré-phylloxéra. Et la vigne a été introduite par les Phéniciens et par contre la production de vin, elle a été poursuivie par contre par les Grecs. Nous avons énormément de production dans le secteur ouest, dans la région de Trapani, Marsala, mais aussi dans la région de Ragusa, Chiaramonte Gulfi. Nous avons visité d'ailleurs certains domaines, mm-hmm, et bien sûr dans l'Etna. Donc c'est des vignes de montagne d'altitude.
On a visité notamment le grand domaine Benanti. Qui a vraiment un patrimoine, une histoire incroyable sur les plantes de l'Etna.
De l'Etna. Un Etna Bianco, un Etna Rosso, et c'est vraiment une famille qui compte beaucoup dans les vins du volcan.
C'est Éric Morin qui débouche un petit coup de cœur. En un mot, qu'est-ce qu'on boit? Qu'est-ce qu'il y a dans nos verres?
Ouais, en deux mots, c'est un Susukaru rosé. C'est un vigneron génial qui a ses vignes là sur le côté du nord de l'Etna. Mm-hmm. C'est mon rosé de l'été. C'est profond, c'est un rouge rubis. C'est incroyable. Vous avez un morceau de lave dans votre verre. Vous le trouvez à 22€ chez un caviste Cru et Découverte à Paris dans le 11e. Je l'ai trouvé à 16€ sur un site d'une cave belge, Licata Vini, qui est tenue par une famille d'origine sicilienne justement et qui livre partout. Vous aurez les coordonnées sur le site. Alors, c'est pas donné, mais c'est quand même moins cher qu'un voyage en Sicile et vous avez un peu d'Etna dans votre verre.
Et c'est 22€ effectivement la bouteille, mais ça vaut vraiment la peine. Le Susukaru d'ailleurs vigneron belge installé sur les pentes de l'Etna, c'est Franck Cornelissen.
Exactement, Franck Cornelissen.
À votre santé, on va tous trinquer en attendant Pomodoro au menu dont on va déguster et on va préparer une pâte emblématique de la Sicile. Et en attendant, notre programmateur musical Giubacca nous plonge dans une ambiance sicilienne avec, tenez-vous bien, la reprise d'un air célèbre par Catherine Ringer et Mauro Gioia. Parle plus bas, parla più piano.
Parla più piano e nessuno sentirà. Il nostro amore lo viviamo io e te. Nessuno sa la verità, neppure il cielo che ci guarda da lassù.
Parla più bene, parla ancora dell'amour fu, dell'amour fort. Parla più bene, car on pourrait bien nous surprendre. Tu sais très bien qu'il ne voudra jamais.
Que dans mon cœur, moi j'ai trouvé
macaron pourrait bien nous entendre. Tu sais très bien que nous ne pouvons rien attendre de ceux qui ont fait des chansons sans un je t'aime ou l'amour.
Apriamo una bottiglia di passata di pomodoro e ce l'assaggiamo. Voilà, pomodoro passato.
Pas d'huile d'olive, pas de sel?
No, qui solo pomodoro, assolutamente.
Qu'est-ce qu'on peut faire avec ce genre de produit?
Beh, ovviamente ci facciamo una bella pasta con pomodoro e melanzane, la siciliana.
C'est la norma?
La norma. Mia moglie in questo momento sta preparando la norma.
Andiamo?
Andiamo.
La passata di pomodoro. On a eu la chance, chère Alessandra, de goûter un coulis de tomates exceptionnel dans un lieu qui ne l'est pas moins, vraiment exceptionnel, Piano Grillo.
Oui, c'est un domaine bio qui est dans la Contrada Piano Grillo, qui est Lorenzo Piccione et sa femme donc Cinzia sont est le descendant de la famille Piano Grillo et il tient ce domaine où il cultive tout un bio énormément de vignes.
Il y a quelques chambres d'hôtes pour ceux que ça intéresse.
Et quelques chambres d'hôtes.
C'est aussi un
exceptionnel agritourisme absolument. Donc lui il cultive surtout la vigne. On trouve les cépages que des cépages autochtones Grillo, Grecanico en blanc, le frappato, nero d'avola en rouge. Et il a aussi donc l'huile d'olive. Et ensuite, il a aussi de la tomate. Il fait aussi des conserves.
Et
donc,
voilà.
De tomates ciliegine, de passata, avec la tomate Ramato Jolly, que nous avons donc goûté sur place et avec laquelle il a préparé cette belle recette sicilienne.
Voilà, vous vous souvenez qu'il nous a promis la pasta à la norma de sa femme Cinzia. Eh bien, je vous propose de la retrouver en cuisine, elle prépare avec que les produits de la ferme, hein, les fameuses pasta à la norme. Ciao.
Ciao. Je suis en train de faire la pasta à la norme.
Quels ingrédients sont nécessaires?
L'aubergine, notre propre aubergine, qu'il frit dans notre propre huile d'olive extra vierge.
D'accord.
La tomate sauce avec nos propre tomate sauce que je fais revenir avec l'oignon et du basilic et un peu de sel. Bon, c'est prêt pour la pasta.
Et quel type de pasta?
Linguine. C'est une pâte longue mais plate.
Là, vous avez coupé les aubergines en rondelles.
En rondelles, pas trop
épaisses.
Et je vais les frire.
Et adesso?
Et maintenant, je vais mélanger tous les ingrédients. Je prends la ricotta salée et puis je la râpe. Je prends un peu de sauce tomate.
Au fond du saladier.
Oui. Puis je prends les pâtes. La pâte est al dente parce que c'est mieux.
Et vous les versez dans le saladier.
Puis je prends de l'autre.
Encore de la sauce tomate.
Un filet d'huile d'olive. Je mélange, c'est tout. Mmh. Puis je prends de l'autre ricotta salée.
Ricotta salata râpée, vous mélangez à nouveau?
Oui.
Parfum extraordinaire.
Oui, extraordinaire. C'est le parfum de Sicile. Maintenant, je prends les aubergines et je recouvre la pâte. Voilà, elle est prête de manger. J'espère qu'elle soit très bonne.
Je suis sûr.
Oui, moi aussi.
Voilà. Elles étaient délicieuses, ces linguine à la norma, donc la recette emblématique de pâte sicilienne avec trois ingrédients, melanzane, l'aubergine, pomodoro, tomate,
ricotta salata,
qui est un peu le parmesan des Siciliens pour faire très caricatural.
Ah, absolument. Après, on met aussi un tout petit peu de basilic et de l'huile d'olive. C'est un plat traditionnel de la région de Catania qui rend hommage à la norma, le chef-d'œuvre de Vincenzo Bellini, célèbre compositeur catanais.
Je cherchais à expliquer le nom norma.
C'est la célèbre norma. c'est paraît ça. Que ce plat de pâte, il est aussi beau alors que, que l'interprétation de la norme.
La version de Cinzia, c'est une pasta à la norma, mais il existe autant de recettes de pasta à norma qu'il y a de familles en Sicile.
Absolument, et pas que de la pasta à la norma, si on parle de tout. Caponata, par exemple, aussi pareil, 37 recettes différentes dans toute l'île, c'est quand même incroyable. On garde quand même un petit peu la base d'ingrédients typiques et traditionnels, et ensuite chacun met un petit peu son grain de sel.
La caponata, vous évoquez évidemment cette ratatouille sicilienne, même s'il n'y a pas de courgettes, il n'y a que de l'aubergine, de l'oignon, avec des pignons, etc. Mais c'est vrai que ça varie beaucoup selon les régions.
Absolument.
Pommes de terre ou pas pommes de terre, poivron ou pas poivron, pignons ou amandes. En tout cas, le point commun...
C'est l'aubergine déjà, le céleri et aussi cet aigre doux qui est donné par l'huile d'olive, le rajout de vinaigre de vin blanc en fin de cuisson avec un tout petit peu de sucre.
Pour donner ce goût agrodolce.
Agrodolce,
l'aigre doux.
L'aigre doux qui permet aussi à la caponata de la garder très longtemps.
Il y en a une par ici, on va la goûter ça. Vous repartirez pas avec l'assiette pleine, je peux vous le dire. Esterelle, on a énormément, on peut le dire, je crois que la Sicile plaît beaucoup aux Français, énormément de réactions sur nos réseaux sociaux.
Il y a tellement de plats dont on ne va pas avoir le temps de parler, mais que vous nous évoquez si bien. On a Sabine et Mélanie qui nous parlent du couscous di pesce de Trapani.
Puisqu'il y a une influence arabe du couscous en Sicile.
En Sicile, mais qui est préparé cette fois-ci avec une soupe de poisson.
Il y a aussi beaucoup les arancini.
Cos'è? C'est
une boulette de riz, on peut dire comme ça, comme un risotto, mais farci avec soit de la viande, de la sauce tomate, abronte par exemple, mais le pesto de pistache. Et ça a la forme d'orange, arancino, donc ça veut dire petite orange.
C'est une des nombreuses spécialités de ce que l'on peut appeler le cibo di strada, la cuisine de rue, la street food, avec l'accent italien, puisque Léo Teixeira sur Twitter nous indique aussi avec sa photo de pane con la milza qu'il a mangé à Palerme cet été. Meilleur sandwich sur Terre, on parle quand même de rate de porc. Alors parfois c'est de la ricotta, parfois c'est du cacio cavallo, mais c'est une espèce de hamburger très très abba.
Ah bah oui, on l'a vu sur le marché d'ailleurs de Palerme, à Ballaro.
Et puis d'autres réactions?
Et on a aussi beaucoup, beaucoup de fans de sucré.
Et bien justement.
Sont déchaînés, la cassata, et tellement de choses. Les cannoli, il y en a des magnifiques sur le plateau. Les sorbets à l'orange, à la mandarine.
Impossible d'éviter les desserts quand on va en Sicile, évidemment. On a découvert l'incroyable diversité du patrimoine sucré de Sicile à Palerme, dans ce que l'on peut appeler vraiment un paradis pour les becs sucrés.
Benvenuti nel monastero di Santa Caterina. Noi ci dedichiamo alla produzione di dolci della tradizione siciliana. I nostri dolci sono i seguenti.
On est ici dans le monastère de Sainte Catherine, dans le cœur de Palerme, et ici on fabrique des gâteaux typiques de la tradition monastique sicilienne.
I sospiri di Monaca, il panino di Santa Caterina, i biscotti ricci al pistacchio, i biscotti ricci alla mandorla, i biscotti papali, la Maria Stuarda, i nucatoli, i bocconcini, la frutta martorana, la cassata, il trionfo di gola, le genovesi, le cassatelle, il cannolo, le fedde del cancelliere, le minne di vergine, il gelo di melone.
Quand l'historienne Maria Oliveri énumère les douceurs de Sicile, alors on entendait cassata, c'est évidemment une des spécialités siciliennes. Attention, faux amis, on entendait à plusieurs reprises biscotti. C'est pas des biscottes?
Non, pas du tout. Ce sont des biscuits. Biscuit, ça veut dire cuit deux fois.
Comme biscotti.
Biscotti, c'est ça. Ce sont donc ces sucreries qu'on peut garder assez longtemps dans son placard où il n'y a pas forcément des ingrédients frais et pour le manger tout de suite.
Et tout cela se passe dans un endroit extraordinaire. On va quand même le citer parce que je pense que beaucoup de nos auditeurs, s'ils ont l'occasion de voyager à Palerme, vont y aller.
C'est le monastère di Santa Caterina d'Alessandria, vraiment dans le cœur de Palerme, et l'endroit s'appelle Il Segreti del Chiostro, et il y a un livre aussi dédié à toutes ces pâtisseries conventuelles exceptionnelles.
Oui, car beaucoup de desserts en Sicile, voire la majorité, ont vraiment une origine religieuse.
Absolument,
pourquoi?
Étaient fabriqués dans les monastères parce que c'était surtout des endroits où les femmes vivaient en isolement total. Elles vivaient en autarchie, donc elles avaient tout sur place, tous les ingrédients. Elles se dédiaient à la cuisine, surtout pas que à la pâtisserie, mais aussi de la cuisine salée. Et ensuite, elles vendaient ces desserts pour pouvoir avoir de l'argent, pour pouvoir survivre aussi. Et on a découvert qu'il y avait plus de 21 monastères dans Palerme qui détenaient de recettes secrètes. Chacun avait la sienne. Et on voulait surtout pas les dévoiler. Et ça a été grâce à la recherche de cette femme que nous avons rencontrée, Maria Oliveri, passionnante, qui est allée se renseigner auprès des dernières bonnes sœurs, des religieuses qui restaient, pour essayer d'avoir ces recettes traditionnelles très très importantes.
Le gâteau qui a tendance à écraser tous les autres, notamment à Palerme, il est ici, il parade sur le plateau dont on va déguster, je crois qu'il ne va pas rester très longtemps dans son état originel. Il s'agit du cannolo, cannoli évidemment,
cannoli au pluriel,
alors sûr. Bon, il est connu partout, internationalement. Décrivez-le nous en un mot, le principe.
Ah oui, c'est donc un biscuit, ce qu'on appelle une cialda, qui est frit et qui est préparé sur une sorte de tuyau, un roseau. C'est pour ça le nom de... Le roseau, c'est la canna en italien. C'est ça qui donne le nom du cannolo. Et c'est préparé avec de la farine, dans la farce du vin blanc, une matière grasse qui peut être le beurre, mais anciennement, c'était absolument uniquement du saindoux.
Difficile à croire, du gras de, du gras de cochon.
Du gras de cochon, parce que c'est ce qui donne en fait le goût et le croustillant. On rajoute parfois aussi, on l'a vu dans le monastère, un tout petit peu de vinaigre de vin. C'est ce qui donne aussi ces bulles caractéristiques sur la pâte. On le fait frire, on attend qu'il refroidisse, on enlève le roseau qui garde donc cette forme creuse pour le farcir avec de la ricotta fraîche de brebis, légèrement sucrée. On le garnit avec des pistaches de Bronte concassée et des oranges confites.
Et vous avez rapporté quand même de ce couvent les biscuits.
Ils ont survécu au voyage.
Et donc il y a plein de bulles, il faut imaginer plein de bulles tout autour. Et vous les avez farcies ce matin, minute à la poche à douille, remplies de cette ricotta, on va dire battue.
Oui, il y a mentionné.
Il y en a un qui a déjà attaqué. Il y en a un qui a déjà attaqué. Alors Eric Morin, vous allez voir, c'est très très facile de parler à la bouche pleine.
Non mais j'aime. Ah, c'est incroyable. C'est vraiment délicieux.
Ça fait plaisir, mais oui, on le voit.
Le contraste entre le côté très aérien et très lacté. Et ce qu'il y a d'étonnant, c'est que souvent on peut voir, notamment en Sicile aussi, des cannolis qui sont fourrés d'une crème de ricotta
jaune peut-être.
Ou parfumée à la fleur d'oranger, c'est pas traditionnel.
Mais c'est pas du tout traditionnel, on le croit, mais non. Mais il faut surtout le farcir à la dernière minute, parce que c'est pour ça qu'on l'a fait sur le champ, parce que la ricotta, sinon elle mouille cette pâte qui doit rester croustillante.
Il y en a une qui est silencieuse, mais extrêmement concentrée, puisqu'elle va aussi nous parler de sucré sicilien, c'est Esterelle Payani.
On va déguster. Sur France Inter.
Il n'y a pas que le cannolo dans la vie, Esterelle Payani, quand même.
Non, il y a les granités aussi, voyons.
Et oui.
Entre la glace et la boisson, au citron, à la mûre, à l'amande, c'est l'ami du petit déjeuner à la sicilienne. Ici, on est café croissant. Au nord de l'Italie, cappuccino cornetto. En Sicile, granita et brioche.
On va déguster avec vous des granitas extraordinaires, et on en a mangé beaucoup. Hein. Partout où on a voyagé en Sicile, c'est un peu, on va dire, l'ancêtre des sorbets ou des gelati.
Oui, son parfum, en fait, on va le retrouver différemment selon les provinces. Il doit y avoir 37 caponata, je pense qu'il y a au moins 38 granitas. On va avoir de la mûre, surtout du citron, des pistaches. Mais son origine, en fait, c'est Messine, au nord de l'île. Et on pense même donc évidemment que c'est lié à l'époque de l'émirat de Sicile, avec la domination arabe du Xe siècle, qui a amené donc, on a dit, les pistaches, mais aussi les oranges, le citron, le sésame et la recette du sherbet. Sherbet, sorbet, on n'est pas très loin.
Et voilà.
C'était donc de la neige ou de la glace recouverte de coulis de fruits ou d'eau de rose. Et la neige des sommets de l'Etna, c'était quand même l'ingrédient idéal. Au Moyen-Âge à Catane, il y avait même des vendeurs de neige, ou Nevarolu, qui allaient l'hiver la chercher sur les sommets du volcan, et la conserver dans des glacières de pierre souterraines pour la vendre l'été. La recette actuelle qu'on connaît n'est vraiment élaborée qu'à partir du XVIe siècle, avec une sorte d'ancêtre de sorbetière, avec de la glace, du sel, un seau en bois, une manivelle en zinc, et en brassant sans cesse un sirop de sucre et d'eau parfumée, on arrive à cette texture.
Granité, justement.
Exactement, la granita, c'est une texture, avant d'être un goût. Quelque chose entre le liquide et le solide, pensé pour se rafraîchir avec une pointe de gourmandise. Une granita, en fait, ça pèse pas bien lourd sur l'estomac.
Et ce serait un peu le sorbet dans son état vraiment primitif. Voilà pourquoi on la sert souvent, d'ailleurs, cette granita, avec une brioche typique de Sicile.
La délicieuse brioche a cotupo en sicilien. En italien, la brioche col tupo. Une brioche ronde, coiffée d'une petite boule, un peu comme une religieuse, voire une brioche à tête française. Il tupo, c'était simplement le chignon bas que portaient les siciliennes. D'ailleurs, en anglais, on va retrouver la même chose. On dit top knot, c'est-à-dire chignon, pour la petite bouboule posée sur la brioche.
La bouboule.
Brioche et coiffure, même combat. Donc, il y a les brioches tressées, avec les babkas et les halotes, les brioches chignonnées, comme la brioche El Topo. Pour les pains au raisin, je crois que la princesse Leia dans Star Wars a bien fait le boulot, mais si jamais vous entendez parler de brioches avec mise en plis ou permanente, merci de nous écrire. Ah, on va déguster.
Cette brioche à tête, elle n'a pourtant pas la même tête que ses consœurs françaises.
C'est vrai qu'elle est plus pâte, beaucoup plus plate, puisqu'on l'a fait sans moule. Sincèrement, là, vous y voyez vraiment un chignon?
Ouais.
Moi, j'y ai toujours vu un nichon.
Un chignon, pas nichon, vous, en plus, hein. Elle fait des contrepétries. D'accord.
Ben, d'ailleurs, c'est pas la seule gourmandise sicilienne pourvue d'un téton.
Un peu aplati, votre nichon, quand même.
Je ne parlerai pas pour ce
régime. Par contre, il est très bon.
Parce que si les Siciliens voient des saints partout, c'est à cause de Sainte Agathe, la sainte patronne de Catane et de Palerme. Son martyr pour avoir refusé les vases avances du proconsul romain du coin a été d'avoir les saints coupé. D'où sa représentation assez étonnante sur les tableaux, avec un plateau avec sa poitrine exposée dessus. Et la semaine du 5 février, on va trouver dans les pâtisseries siciliennes des minuzzi ou des mine di Santa Agata, des petits gâteaux, évidemment servis par pair, fourrés à la ricotta, fruits confits, pistaches, recouverts de glaçage blanc et coiffés, bien sûr, d'une cerise confite au sommet.
Pour faire office de téton, et c'est vrai que c'est très coquin, comme très suggestif en fait, comme spécialité.
On les reconnaît même très très bien dans le film de Visconti, Le Guépard. Si vous regardez bien la scène du buffet, on les voit très nettement exposés. La brioche al topo, finalement, c'est une version plus simple de la même tradition, mais comme elle s'en va toute seule et non par deux, sa force commémorative s'en est un peu retrouvée émoussée. Alors vous n'imaginez pas ma joie quand j'ai trouvé de l'autre côté des Alpes ce qui me manquait pour faire une belle paire de brioches.
Vous voyez vraiment des saints partout, même dans les brioches françaises?
Enfin, François-Régis, c'est pas ma faute si la Savoie a été sous influence sicilienne. Ah. Parce qu'au XVIIIe siècle, la maison de Savoie a échangé la Sardaigne contre la Sicile. Et l'on dit que les traditions de Sainte Agathe, qui protégeaient aussi de la foudre et du feu, se sont importées à l'époque. Et qu'il existait donc en Savoie une brioche ronde à la fleur d'oranger qui portait au bout une unique praline rose. Cette brioche serait l'ancêtre de la Saint-Génix, désormais truffée de pralines et beaucoup moins explicite. Quand on dit donc que quelqu'un a de la brioche, c'est pas forcément qu'il a du ventre.
Vous nous avez préparé cette
Oui, alors je me suis lancée. Hein. Chignon ou nichon, chez vous, il va falloir choisir avec la recette. C'est une pâte à brioche avec du saindoux.
Et de la fleur d'oranger.
Traditionnellement, on utilisait du saindoux, évidemment.
Elle est bonne.
Maintenant, on met du beurre. La recette est détaillée. Le secret aussi, c'est un peu de miel. Comme ça, c'est une brioche qui se conserve bien une journée. Pour tout le détail de la recette, renseignez-vous sur la page. On va déguster. Vous pouvez la faire à la maison, avec ou sans granité.
C'est prodigieux. Et la granita, elle est où?
Alors, j'ai juste fait du lait d'amande. Je n'avais pas porté la sorbetière. Vous me pardonnerez, François-Régis?
La granita est il ventre materno.
La granita, c'est le ventre de la maman.
La coccola della mattina.
C'est quelque chose qui nous chouchoute le matin. C'est ce qu'il faut manger au petit déjeuner. Et c'est quelque chose de naturel qu'on a en nous.
Una combinazione di soli tre ingredienti.
Techniquement, la granita, c'est une composition juste de trois ingrédients.
Acqua,
de l'eau,
zucchero,
du sucre
et l'ingrédiente che dà il gusto.
Et l'ingrédient principal qu'on veut mettre en valeur.
La granita est l'espressione.
La granita c'est vraiment l'expression matérielle de la fraîcheur.
Non ci sono nella granita proteine, ma ingredienti di origine.
Il
n'y
a aucune
animale.
Protéine d'origine animale à l'intérieur, jamais.
Quelle est la granita qui a le plus de succès ici à Café Sicilia?
La mandorla. La mandorla, parce que nous sommes en centre de la meilleure qualité des terroirs d'amande au monde.
Et ensuite, vous faites quel autre gusti?
Questa gialla est
la plus orangée, c'est l'abricot.
La rossa,
celle du milieu qui a une couleur un peu vigne rouge,
gelsonero,
c'est du mûrier platane.
Et quella leggermente sospesa tra il giallo,
celle qui est plus à droite, c'est le citron.
Grazie. Merci beaucoup. Citons juste une adresse extraordinaire à Noto pour manger des granités, puisqu'au pluriel c'est granités.
Chez Corrado Assenza, le chef pâtissier du café Sicilia à Noto, qui nous a donné une très très belle définition aussi de sa granita. Il lui dit que c'est toute l'essence de la culture alimentaire du peuple sicilien, toute la façon d'exprimer l'élégance dans la pauvreté de peu d'ingrédients.
Merci beaucoup Alessandra pour cette définition. On peut vous retrouver chez Rapp. On peut aussi, Rapp c'est votre épicerie parisienne sur l'Italie, on peut aussi faire vos recettes de pâtes avec Pasta Allegra, le livre de recettes que vous co-signez avec Sonia Esgulian, édition de l'Épure. Demain à 11h, on vous mijote une leçon de cuisine anti-gaspi avec les chefs Chloé Charles et Johan Thiriot. À demain, si vous avez encore faim.